RMC, face aux grandes gueules.
C'est Sacha Stropkan qui est avec nous, le porte-parole du ministère de la Justice. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Est-ce que le ministère de la Justice va présenter ses excuses aux parents de cette petite fille?
C'est pas tant une question d'excuses, parce que de toute manière, rien ne pourra consoler ses parents. Et je veux commencer par avoir un mot de compassion pour eux, parce qu'évidemment, on imagine, si le corps qui a été retrouvé se confirme être celui de leur fille, l'état dans lequel ils sont. Une chose est sûre, c'est que c'est un constat d'échec collectif. Et quand je dis collectif, c'est au nom de l'institution que je représente, c'est-à-dire l'institution judiciaire, mais c'est même un échec collectif de l'État, puisqu'on voit bien que c'est probablement une succession de dysfonctionnements à la fois systémiques au sein du ministère de la Justice, au sein éventuellement des forces de l'ordre, et même de l'éducation nationale, probablement, puisqu'on se pose des questions sur un certain nombre de signalements qui auraient été faits ou n'auraient pas été faits au moment où ce monsieur aurait été licencié de l'éducation nationale. Donc, de fait, c'est un constat d'échec
de la machine étatique. Protection de l'enfance n'est pas une priorité au ministère de la Justice. Il y a d'autres combats à mener, importants, hein, contre le narcotrafic, contre les délits routiers et autres. Et on met au second plan, lorsqu'un enfant se plaint d'avoir été violé, l'en parle à ses parents et que ses parents, courageusement, vont porter plainte. Finalement, ça n'aboutit pas.
Alors si, pour le coup, vous les avez cités, les deux priorités du ministère de la Justice et du ministre de la Justice, et elles sont très claires, c'est à la fois la lutte contre la criminalité organisée qui s'est déclinée ces derniers mois, je ne vais pas revenir sur la création du parquet national de lutte contre la criminalité organisée, la création des prisons de haute sécurité, et la deuxième priorité, elle est très claire, c'est la protection des femmes et des enfants. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de circulaires de politique pénale qui ont été prises ces derniers mois pour expliquer clairement aux procureurs généraux, qui sont d'ailleurs invités à la chancellerie à la demande du ministre lundi pour faire le point.
Tous justement. Les procureurs sont convoqués lundi.
Ils sont attendus à la chancellerie invité. Pour faire le point.
Oui. Invités.
Oui, on dit invité à convoquer. Convoqué, parce que c'est aux fonctionnaires qui répondent à la convocation du ministre.
Il y a urgence. Pour dire quoi? Qu'est-ce qui va leur être rappelé?
Il va être rappelé sans me faire. L'écho du ministre et de ce qui sera dit dans cette réunion, mais tout simplement qu'il y a des consignes très claires qui ont été passées par la chancellerie, par la direction des affaires criminelles et des grâces, et donc le ministre, sur le fait que effectivement la protection des mineurs est un sujet prioritaire et que ces dossiers doivent être traités en priorité et avec le plus grand sérieux. Et donc, vous avez là, manifestement, un certain nombre de dysfonctionnements systémiques. Mon but n'est pas de jeter l'opprobre, vous savez, sur des responsabilités individuelles. On verra s'il y en a. Les deux peuvent éventuellement se cumuler, mais moi, ce qui me paraît quand même important de rappeler, au-delà de l'institution que je représente aussi des hommes et des femmes. Si vous voulez, quand vous êtes magistrat, comme quand vous êtes gendarme, policier, que vous travaillez à l'hôpital, que vous travaillez dans l'éducation nationale, vous vous levez tous les matins pour aider, protéger, accompagner, et notamment des enfants. Vous ne vous levez pas le matin en vous disant je vais fermer les yeux sur un danger pédocriminel et attendre qu'une jeune fille meure.
Le policier peut être poursuivi pour avoir mal fait son boulot et le magistrat c'est un peu plus léger.
Il y a la possibilité, le ministre l'a dit clairement, à la fin il y a la possibilité de poursuites disciplinaires. Il l'a dit en tant que chef d'administration, il prendrait ses responsabilités.
On pourrait avoir un jour une espèce d'exemple, je suis désolé, mais qu'enfin on dise aux juges que le peuple français les regardent dans leur travail, puisqu'ils rendent la justice au nom du peuple français, et que les dysfonctionnements, les échecs collectifs, un jour, amènent à des sanctions individuelles.
Alors, c'est une question très légitime que vous posez, parce que ça me semble important de le rappeler. Moi, quand il y a encore quelques mois, je rendais la justice en votre nom à tous. Je ne la rendais que parce que vous m'avez délégué ce pouvoir. Je la rendais en votre nom. Et donc, à partir du moment où il y a une rupture de confiance entre...
Vous étiez magistrat, pardonnez-moi.
Oui, bien sûr.
Mais magistrat du siège, du parquet.
Magistrat du siège.
D'accord. Vous étiez en correctionnel ou en civil?
Oui, tout à fait. J'étais au tribunal judiciaire de Paris et je m'occupais notamment du contentieux à la fois terroriste et de la criminalité organisée. Et donc, quand je rendais des décisions, je les rendais en votre nom à tous. Et donc, à partir du moment où il y a une rupture de confiance entre vous et moi, à partir du moment où c'est vous qui m'avez délégué ce pouvoir, ça pose une question sur quelle est ma légitimité à continuer à l'exercer.
Bien sûr,
donc,
très juste.
Vous posez une question extrêmement importante. Maintenant, ça serait faux et un peu simpliste de dire que c'est facile. Parce qu'en vérité, vous avez un autre principe dans notre justice, et qui est un principe important, qui est le principe de l'indépendance. Et de fait, on ne peut pas sanctionner un magistrat pour une décision qu'il a rendue de la même façon qu'un autre fonctionnaire. Puisque ça viendrait éventuellement porter un jugement sur le fond de la décision qu'il a rendue. C'est pas pour autant que vous êtes dans un système d'irresponsabilité totale, parce que pour le coup, vous avez le fond des décisions, et ensuite vous avez tout simplement, pour dire les choses simplement, est-ce que vous avez bien ou mal fait votre travail.
Mais
si vous avez mal fait votre travail, il y a la possibilité de vous sanctionner.
Prenons
même
un exemple.
L'État a déjà été sanctionné.
Bien sûr. Prenons un exemple concret dans cette affaire Liana. On apprend que l'été 2025, en août 2025, la maman de Rosa, une petite fille qui se plaint d'avoir été violée par l'homme qui est aujourd'hui en prison. Donc cette maman va porter plainte pour viol sur mineur. Bon, ensuite, les parquets se demandent qui doit prendre l'affaire, etc. Là, ça prend 5 mois. Donc on arrive au mois de décembre. Et finalement, en janvier, une gendarmerie est saisie de cette affaire. Bon, il se passe rien. Et en juin, il y a ce drame. Donc d'août 2025 à juin 2026, il y a donc une petite fille qui dit avoir été violée par un homme, et cet homme, à aucun moment, ne sera entendu.
Et c'est là,
pourquoi ?
Justement, c'est le parfait exemple de ce que, malheureusement, je vous disais, c'est que une responsabilité systémique n'exclut pas des éventuelles responsabilités individuelles. Pour moi, elles peuvent se cumuler.
Ça veut dire multiple. À la fois du procureur, plus, du
le
gendarme.
But pas, je rappelle qu'il y a une triple enquête administrative, ou en tout cas une enquête administrative conjointe entre l'inspection générale de la justice, l'inspection générale de la gendarmerie nationale et l'inspection de l'éducation nationale qui est diligentée pour justement faire la lumière sur tout ça, mais les deux peuvent se cumuler.
Oui, c'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure,
c'est ça qui est problématique.
Vous avez dit que c'était une priorité la lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants. Bah, visiblement pas dans le Gers. Dans le Gers, c'est pas une priorité. Sinon, on n'attend pas des mois et des mois avant de se saisir sérieusement d'une affaire dans laquelle une petite fille se dit avoir été violée par un adulte de 41 ans.
C'est guère mieux à Paris, hein.
En tout cas, là, ça s'est passé dans le Gers.
En tout cas, je pense que là aussi, ce que vous dites est parfaitement légitime, et je pense honnêtement.
Ah, mais
et c'est pour ça que je suis là ce matin. Je pense que pour nos concitoyens, c'est incompréhensible. Ce que nos concitoyens retiennent, c'est qu'en gros, on peut avoir une petite fille qui arrive dans un hôpital sur laquelle on constate des lésions en dénonçant des faits de viol ou d'agression sexuelle, et que pendant plusieurs mois, il ne se passe rien. Et ça, pour le coup.
Et le gendarme qui engueule la maman. Parce qu'elle appelle trop souvent la gendarmerie pour avoir des nouvelles de cette affaire.
Ça, c'est tout à fait
incompréhensible. Donc là, on est dans les responsabilités individuelles aussi.
Ça, c'est tout à fait incompréhensible.
Là, il y a une sanction administrative,
évidemment.
Une sanction disciplinaire.
De fait, je ne vais pas vous faire l'enquête administrative et la sanction disciplinaire avant que ça n'ait lieu.
C'est pas incompréhensible. À un moment donné, il faut qu'on soit carré. C'est pas incompréhensible. Vous avez aujourd'hui des policiers et des gendarmes qui reçoivent des plaintes de femmes qui sont maltraitées par leur mari, violées, ou voire même des fois agressées physiquement, tapées. Et en fait, derrière, il n'y a rien derrière, on la renvoie chez elle. Et après, on apprend qu'elle était morte, elle était tuée 2 semaines plus tard. Et en fait, on a beau dire, et on vous entend, c'est vrai, j'ai entendu Macron en 2012 dire, pas en 2012, c'était son 2022 quand il est réélu, c'est ma priorité, je lance aussi, c'était Hollande. Et en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est systémique, en fait.
Tu peux pas dire qu'il n'y a rien qui se passe.
Je peux pas vous laisser dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, à mon sens, il y a 3 niveaux de responsabilité. Il y a une responsabilité, pour partir du plus large, une responsabilité sociale. Vous voyez, hier, j'ai déjà fait un certain nombre de plateaux et j'entendais des témoignages, y compris dans le village, de gens qui disaient, il allait régulièrement à la sortie du collège et puis il prenait dans sa voiture pendant une demi-heure, une heure, des jeunes filles, et visiblement tout le monde le savait et ça n'inquiétait personne. Et donc, il y a quelque chose qui est presque de la notion de la société de vigilance. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité à tous aussi à un moment de se dire, c'est des comportements qui sont anormaux et d'en donner connaissance, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'éducation nationale.
Et
ensuite, vous avez la responsabilité de l'État, que, évidemment, je ne conteste pas, et c'est pour ça que, parce qu'on doit rendre des comptes à nos concitoyens, une fois de plus, comme je vous le disais, parce que c'est vous qui nous déléguez le pouvoir de juger les autres, donc je suis là pour rendre des comptes, et c'est pour ça que je réponds à vos questions. Évidemment qu'il y a une responsabilité de l'État. Oui. Et ensuite, le 3e niveau, c'est une éventuelle responsabilité individuelle.
Vous avez dit systémique. Vous avez dit, il y a un problème systémique, ça veut dire quoi ?
C'est que, par exemple, je pense que vos auditeurs et téléspectateurs découvrent qu'au XXIe siècle, on se transmet des procédures pénales criminelles quasiment à dos de charrette, et qu'on n'est pas capable de faire ça par des envois numérisés et sécurisés, en sachant exactement qui envoie quoi, à quelle date.
Chez Toulouse, hein.
Exactement.
Il n'y a pas non plus de...
Je vous donne un autre exemple, c'est que... Il y a quelques semaines, j'ai fait un certain nombre de plateaux à la suite d'un rapport de l'inspection générale de la justice sur l'affaire Pellico, ou en tout cas la première affaire Pellico, avec un rapprochement, vous savez, au fichier national, au FNAEG, qui avait matché dès 2010 et visiblement qui n'avait pas été traité. C'est la même chose. En fait, dans ce rapport, ce rapport nous dit, à l'époque, ça a été envoyé par un courrier simple au juge, au magistrat en charge du dossier. Donc on ne sait même pas si à l'époque il a reçu ce rapprochement, ce match entre l'ADN de Monsieur Pellicot et le fichier. Là aussi, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, vous pouvez pas avoir un envoi de lettres simple pour un dossier aussi important et un sujet aussi important, alors que votre convocation d'AG à votre conseil syndical vous est envoyée par recommandé numérique.
Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller plus vite ? Pourquoi on n'a pas les moyens ? Pourquoi est-ce qu'on ne modernise pas rapidement ? Alors que, en plus, on est à une époque où, avec l'intelligence artificielle, les portables, tout va ultra vite et une mission de l'État à la justice, bah, elle est quasiment au point mort ou au ralenti, non, du moins.
Ça a bien avancé quand même.
Alors, pour le coup, non, mais je remercie Maître de donner de l'eau à ce que j'allais vous dire, mais. Faut être évidemment que on peut toujours faire plus, évidemment qu'il faut toujours faire plus. La vérité, c'est quand même que c'est une institution. Je reprends les propos d'un garde des Sceaux il y a quelques années, il y a maintenant au milieu des années 2010, qui disait que c'était une institution en voie de clochardisation. Depuis 10 ans, il y a d'énormes efforts qui ont été faits, mais la difficulté, c'est qu'on partait de tellement loin que malgré ces efforts, le temps de rattrapage est colossal. Je vous donne un exemple. Sur les 4 dernières années, on a recruté 1500 magistrats. Pour que vos auditeurs se rendent compte, c'est un corps qui compte 8000 personnes. On a recruté 1500 personnes de plus. Vous vous rendez bien compte que c'est quand même massif. On a recruté 1800 greffiers de plus.
Alors pourquoi c'est toujours aussi lent?
Mais parce que
la formation est longue déjà.
Parce qu'il y a du stock de dossiers. Exactement, la formation est longue. On a du stock de dossiers. Et ensuite, c'est une administration qui a pris énormément de retard.
Vous n'êtes pas noyé par la bureaucratie? Parce que c'est un peu le mal français. Et pas seulement dans la justice, un peu partout. On le voit, c'est quand même la bureaucratie. Le poids de l'administration, des procédures, qui fait qu'à un moment donné, englué par tout ça, on oublie l'essentiel, à savoir protéger les victimes.
J'entends, et je pense que effectivement, c'est un peu un serpent de mer et qu'il y a moyen de simplifier les choses. Oui. Après, je pense que quand on parle de justice, bureaucratie est impropre, parce que vous voyez, le jour où il vous arrive quelque chose à vous, à moi, que vous êtes accusé de quelque chose, vous êtes quand même content qu'il y ait une procédure pénale très claire, qui soit là pour protéger vos droits et que ça soit pas l'embastiment et que du jour au lendemain, on vous embastille et que ça.
Bah oui, on l'embastille pas beaucoup en France, mais
bah justement, par exemple, parce que vous avez cette procédure qui est protectrice.
Je prends un exemple concret que Charles Consigny, avocat, donne souvent ici. George Floyd, affaire extrêmement médiatisée aux États-Unis. Donc cet homme qui a été tué par la police.
Tout à fait.
L'affaire s'est réglée en un an, malgré quand même la pression, les manifestations. En un an, le policier était condamné, jugé et condamné. Voilà, un an.
Alors, on n'est pas du tout sur
une affaire emblématique.
Tout à fait.
En France, ça aurait mis 5 ans, 6 ans.
Alors, on n'est pas.
Il y aurait une détention provisoire, mais si.
Alors, on n'est pas du tout sur le même modèle que les États-Unis. C'est que vous avez un modèle où déjà, les États-Unis, c'est une justice en grande partie négociée. C'est-à-dire que vous avez 90% des dossiers criminels qui seront l'objet d'un deal entre le procureur et qui, en fait, ne font jamais l'objet d'un procès. Donc déjà, c'est pas du tout le.
On peut aller vers ça aussi.
Ou pareil aussi avec la transaction civile aussi.
Bien sûr. Alors. Pour le coup, il y a des marges de manœuvre. C'est d'ailleurs pour ça, là, on s'éloigne du sujet de la protection des enfants en tant que tel. Mais par exemple, vous avez un projet de loi qui a déjà été voté au Sénat et qui arrive. Exactement, le plaidé coupable criminel qui vise à réduire les délais d'audiencement. C'est-à-dire de dire, face à des faits qui sont reconnus, à un auteur qui accepte de rentrer dans cette voie et une victime qui l'accepte aussi, pourquoi attendre 2-3 ans pour avoir une date de procès quand on peut avoir une audience réduite qui a un cadre solennel? On a fait cette semaine.
Mais pourquoi 2-3 ans? Déjà, c'est trop long, 2-3 ans. Pourquoi pas?
Parce que
ça dans la tête, dans notre culture, c'est que ça doit prendre du temps.
Parce que pour le coup, vous avez, sur l'audiencement criminel, vous avez tout simplement une explosion des stocks. C'est-à-dire que, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 2 dernières années, on est passé à peu près de 2000 procédures criminelles jugées par an à 4000 procédures criminelles jugées par an. C'est-à-dire que la cadence a augmenté de 50%. Donc c'est bien la preuve que les magistrats, les greffiers travaillent. Mais en face de ça, on prend en stock 1000 dossiers criminels supplémentaires malgré ça en plus par an. Parce que tout simplement, est passé par là le fait que le narcotrafic a explosé et que donc on est obligé d'écluser ces dossiers, de les traiter. Vous avez passé par là également le phénomène MeToo qui ne vous a pas échappé. Et donc les violences sexuelles, là aussi, n'ont pas explosé en tant que telles, mais sont beaucoup plus dénoncées.
Et donc la pédocriminalité est passée après.
Non, elle n'est pas passée après, mais c'est là où je vous dis que...
Vous n'avez pas créé un parquet national contre la pédocriminalité?
La question...
Bah, on a créé un parquet national financier après l'affaire Cahuzac.
Oui.
On a créé un parquet national contre le narcotrafic, mais on n'a pas créé de parquet national contre la pédocriminalité.
La question peut se poser et elle est légitime. Après, si vous voulez, la différence, c'est que le narcotrafic, le PNF, le parquet national anti, le financier, pardon, et le PNAT, c'est un portage national. C'est-à-dire que c'est des dossiers très gros, très emblématique. La lutte contre la pédocriminalité, c'est sur l'ensemble du territoire, c'est des dizaines, malheureusement, de milliers de dossiers, et un parquet national ne peut pas lui seul traiter ces dizaines de milliers de dossiers.
Et les mesures, alors du coup, là, ça va être quoi?
Alors, ben justement, on va continuer de l'évoquer avec Sacha Stropkan, qui est le porte-parole du ministère de la Justice. On aura aussi un coup de fil de Philippe, qui est un ancien enquêteur de brigade de gendarmerie durant 20 ans. Et là, c'est le gendarme qui regarde le dysfonctionnement, peut-être de la part de ses collègues du côté du Gers, et pour lui, il y a eu des erreurs qui ne sont pas imputables à ce moment-là au ministère, enfin à la justice, disons. Allez, vous restez avec nous. Sacha Stropkan, porte-parole du ministère de la Justice et l'invité des GG.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Sacha Stropkan, le porte-parole du ministère de la Justice, est avec nous dans les GG, dans les grandes gueules, puisque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, était à une réunion avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et puis, il y a les procureurs qui seront donc convoqués lundi matin pour reprendre un peu les priorités. Et on attend, de savoir si oui ou non c'est bel et bien le corps de Liana que l'on a retrouvé, mais ça laisse peu de doute.
Ce qui est terrible, c'est de retrouver les archives et notamment la circulaire qui date de janvier 2025, envoyée par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui fixait dans cette circulaire sa politique pénale et ses priorités. Voilà ce qu'il était écrit. Il est nécessaire, concernant les violences faites aux personnes, donc aux femmes, aux enfants, il est nécessaire de poursuivre votre mobilisation concernant les faits commis au préjudice des enfants. Les violences physiques ou sexuelles doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un traitement prioritaire. Il écrit ça en janvier 2025.
Tout à fait. Et je peux même rajouter que si vous prenez la circulaire, en haut de cette circulaire, il y a marqué deux choses. Il y a marqué de façon manuscrite, en plus de la signature, il y a marqué « très signalé ». Ce qui veut dire qu'il faut apporter une attention particulière. La deuxième chose, c'est je sais pouvoir compter sur votre détermination avec toute ma confiance.
Mais plus d'un an après, c'est un échec. C'est un échec. Enfin, il faut rien passer.
Le premier mot que vous m'avez entendu dire sur ce plateau, c'est échec collectif. Donc je pense que j'ai pas la volonté.
L'échec collectif, c'est une façon de se dédouaner. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un échec personnel de la part du ministre Gérald Darmanin sur cette question-là?
Vraiment, je le pense pas. Déjà parce que il vous aura pas échappé que on vit dans un pays où la justice est indépendante et que donc les instructions individuelles depuis 2013 sont proscrites, c'est-à-dire que
c'est-à-dire qu'on n'écoute pas les instructions du ministre.
C'est-à-dire que le ministre de la Justice peut passer des instructions de politique pénale générale, comme vous venez de le rappeler, c'est-à-dire dire sur tel type de contentieux voilà la marche à suivre, mais ne pourra jamais dire dans un dossier de pédocriminalité, mais comme dans n'importe quel dossier, ne pourra jamais dire dans tel dossier merci de faire ça. Ça c'est proscrit, il a pas le droit de le faire. Donc de fait, sa responsabilité n'est pas celle d'un dossier individuel. Elle, sa responsabilité, l'idée, c'est d'organiser le bon fonctionnement de la justice.
Alors, l'organiser, c'est une bonne chose, mais il faut aussi pouvoir contrôler, parce que c'est bien beau de déposer des circulaires, de faire en sorte qu'on donne des bonnes mesures, mais si elles ne sont pas contrôlées, c'est comme si c'était dans le vent. Donc, il y a aussi un problème à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de contrôle qui a été effectif après la circulaire.
De fait, il n'y aura jamais un contrôle, malheureusement, on peut le regretter, mais il n'y aura jamais un contrôle derrière chaque dossier. C'est qu'après, c'est la responsabilité des magistrats qui ont en charge de ces dossiers d'appliquer ces politiques pénales générales.
Alors, comment faire pour justement améliorer ce contrôle? Est-ce que, je sais pas, moi, je dis une bêtise, mais est-ce que chaque fin de mois, il devrait y avoir un rapport qui serait automatiquement remonté au ministère pour dire, bon voilà, sur telle procédure, il y a eu ça,
c'est surtout que, pour le coup, vous avez quand même une chaîne hiérarchique au sein du ministère de la Justice qui est claire, c'est-à-dire que vous avez des procureurs dans chaque tribunal de France, et au-dessus d'eux, vous avez dans chaque cour d'appel 36 procureurs généraux. Ouais. Et donc, c'est justement pour ça que ces 36 procureurs généraux sont invités lundi pour leur rappeler clairement que c'est leur responsabilité de faire appliquer ces politiques pénales.
J'ai l'impression que maintenant, ça va être panique à bord au sein de la magistrature, mais aussi au sein de la gendarmerie. Je disais dans le Parisien ce matin que le patron des gendarmes de France, la direction générale de la gendarmerie, demandait à tous les gendarmes, à tous ceux qui traitent des sujets, de faire le point sur les dossiers, de voir si tout est en règle, et de faire et remonter les éventuels retards, dysfonctionnements. Donc tout d'un coup, c'est un réveil général, là.
Si vous voulez, c'est que on peut le regretter qu'il faille passer par ce genre d'événement pour que on prenne conscience de certains dysfonctionnements. Mais après, à l'inverse, nos concitoyens je pourrais pas venir vous voir aujourd'hui en disant bah en fait oui il y a eu des dysfonctionnements mais par contre on va en tirer absolument aucune conclusion.
Oui, mais là,
et puis on va pas du tout faire le point.
Alors, c'est une réponse à un instant T parce qu'il y a une pression médiatique et politique. Est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? C'est là la question.
Bien sûr.
Est-ce que effectivement les futures petites Liana seront protégées?
Mais bien sûr, mais on peut que en douter puisque vous disiez déjà que l'une des priorités de votre ministère quand Gérard Darmanin est arrivé, c'était de dire que c'était la protection de l'enfant.
On est tout à fait d'accord et c'est pour ça que ces derniers mois il y a des gros efforts qui ont été faits. Je vous ai parlé de ces politiques de circulaire pénale. Après on aussi conscience qu'il faut modifier parfois la loi. Vous avez un projet de loi qui s'appelle Protection de l'enfance, qui est co-construit avec le ministère de la Santé, parce que vous avez la question certes de la sanction, mais aussi de la prévention, de comment on protège mieux les enfants en amont, qui sera présenté, qui a été présenté en Conseil des ministres il y a 15 jours, donc c'est bien la preuve que le sujet est un sujet prioritaire. Et ensuite, pour s'extraire deux minutes de cette triste affaire et de cette succession de dysfonctionnements, on voit par exemple avec le périscolaire à Paris ces dernières semaines que c'est un sujet. Je pense que nos concitoyens ont découvert qu'on pouvait être maire, embaucher des gens dans un périscolaire et ne même pas avoir l'obligation légale de contrôler le casier judiciaire des gens qu'on embauche au contact d'enfants. Ça aussi, manifestement, c'est des dysfonctionnements sur lesquels il faut agir et c'est ce qu'on fait. Maintenant, de fait, vous dire que malheureusement, si on avait la formule magique pour que demain il n'y ait plus jamais de pédocriminels et qu'on arrive à tous les traiter, je serais le premier à vous dire que
Je voudrais qu'on écoute Philippe qui est avec nous, qui est du côté des Alpes-Maritimes, qui est un ancien enquêteur de la brigade de recherche de gendarmerie. Bonjour Philippe.
C'est
l'ancien gendarme qui est interpellé aussi par l'ensemble des erreurs là. Dites-nous.
Alors Alain, juste pour revenir sur ce que tu as dit en préambule, je suis pas là pour mettre la tête sous l'eau de mes anciens collègues, absolument pas. Une enquête judiciaire, c'est simple, il y a des faits, il y a une plainte, les faits sont constatés, il y a une plainte qui est déposée. Le patron de cette enquête-là, c'est le procureur de la République. Ça, personne ne pourra me contredire là-dessus. Ouais. Ce qui s'est passé pour l'affaire de Jérôme, là, Jérôme B., Barrella, je crois que c'est ça.
Oui.
La dernière plainte, enfin la plainte qui aurait pu éviter
la petite Rosa,
horrible, qui a été déposée en août 2025, c'est que ça a été fait hors circonscription de son lieu d'habitation. Ça, c'est un premier problème. Cette procédure pénale, dans cette France-là, plus personne, on n'en peut plus de cette procédure pénale. Je suis content d'avoir le porte-parole du ministère de la Justice, là, sur vos plateaux. Simplifier cette procédure pénale. Aucun magistrat ne s'est penché là-dessus depuis 40 ans. On ne fait que complexifier tout ça. Normalement, la plainte, quand ce sont pour des faits graves comme ça, eh ben, c'est pas grave. C'est Toulouse qui garde. Elle envoie ses OPJ. Elle va l'entendre. Elle le place en garde à vue. Et c'est Toulouse qui va gérer. Parce que la compétence territoriale du lieu de l'auteur, c'est aussi la compétence territoriale du lieu des faits qui s'est passé à Toulouse. Si ça s'est passé à Toulouse, Toulouse aurait pu garder cette affaire.
Alors, sauf que là, on a perdu des mois.
Allez-y, Philippe. Oui.
Mais je continue. Alors, ça s'est pas fait. Toulouse a décidé. Non, on transmet à Hoche. C'est Hoche qui reprend la compétence territoriale parce que c'est le lieu de résidence de l'auteur. Et donc, plutôt que de faire comme dans la grande majorité des dossiers où on envoie, avant c'était des fax, maintenant ce sont des mails, urgence signalée, protection de mineurs, eh ben non, on laisse un dossier sur un bureau, sur une étagère, parmi d'autres, alors que c'est un viol sur mineurs. Ce dossier n'aurait jamais dû arriver à la pauvre petite brigade de proximité du lieu de résidence de l'auteur. Ça aurait dû être géré par ou une brigade plus importante avec plus d'OPJ qui ont plus de compétences. Une brigade de recherche, j'ai fait 20 ans de brigade de recherche. Des dossiers comme ça, on en a géré, on n'a jamais attendu des mois pour taper les gars. Jamais de la vie. C'est une défaillance d'abord du ministère de la Justice. Monsieur le porte-parole, prenez-le comme c'est, mais c'est la réalité. Et ensuite, en effet, il y a peut-être une défaillance de la chaîne hiérarchique de la gendarmerie qui aurait dû dire ce dossier, c'est pas pour vous. On va la donner à la BR parce que vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas là pour ça. Brigade de proximité, c'est pour être aux proximités du public et pas pour faire des enquêtes.
Non, voilà. Peut-être c'est pour répondre.
Donc il faut pas donner. Attendez, monsieur, je porte parole. Il faut pas donner, il faut pas taper sur la tête de ce pauvre gendarme.
Je ne crois pas que vous m'avez entendu dire taper sur la tête de qui que ce soit.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il pourrait peut-être simplifier la procédure, notamment sur savoir quel parquet doit se saisir.
Ça fait longtemps qu'on en parle.
Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Déjà, je pense que ça n'a aucun sens, honnêtement, entre administrations, d'essayer de dire c'est plus la responsabilité de la gendarmerie que de la justice, que de l'éducation nationale ou que sais-je. pour le coup, ce qui intéresse les gens, c'est pas la responsabilité de qui c'est de toute manière, c'est la responsabilité de l'État, et puis on fonctionne tous pour un même organisme qui s'appelle l'État. La deuxième chose, sur la question de la simplification de la procédure pénale. De fait, c'est un sujet, évidemment, et il y a des choses qui sont entreprises. Par exemple, c'est très technique, mais vous avez une ordonnance qui a été prise il y a maintenant un an et demi pour simplifier le code de procédure pénale. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Pour quand même répondre au cas précis que vous citez, c'est bien la preuve, vous l'avez dit vous-même, monsieur, que c'est pas un problème de procédure. La procédure permettait au parquet de Toulouse de garder, il y avait une compétence pour qu'il puisse garder le dossier. Donc après, c'est des choix.
Mais ils l'ont pas gardé. Mais donc le parquet de Toulouse s'est trompé.
Ben, je ne sais rien s'ils sont trompés.
Si, donc, responsabilité individuelle, c'est ce que vous êtes en train de mettre en avant.
Vous aurez le procureur
de
Toulouse devant
vous. C'est pas ce que je dis. Je vous dis juste que, pour le coup, c'est bien la preuve que là, c'est pas une question de procédure, c'est une question de choix qui sont faits par des magistrats ou, en tout cas, à un moment, sur ces sujets-là. Donc, évidemment qu'on peut... Je comprends que la question, une fois de plus, pour revenir sur la question démocratique, mais en vérité, je suis pas sûr que là, il y ait une urgence à jeter qui que ce soit dans la mer, une fois de plus. Non, mais,
ouais,
mais bien sûr.
Question naïve. Et je remercie Philippe, l'ancien enquêteur, d'avoir été avec nous. Question naïve.
Dans le concret.
Si, à ce moment-là, on rentre dans une gendarmerie n'importe où, le nom de Jérôme B, le suspect numéro 1, est-ce qu'il apparaît? Est-ce qu'à ce moment-là, on voit son profil? Est-ce que tout le monde, enfin, les enquêteurs, les magistrats, y ont accès et se disent, ah, là, on a quand même un type qu'on devrait un peu surveiller, voyez, bien et sûr. Que ça met la puce à l'oreille. C'est ou est-ce qu'il y a des cloisonnements aussi
la question,
de
la question des fichiers est une question intéressante, parce que, pour le coup, même avant ce qui nous occupe aujourd'hui, une fois de plus, le périscolaire, vous voyez bien que le périscolaire, la question s'est posée aussi, puisque le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le fait qu'il voulait créer ce qu'il a appelé une liste noire, parce qu'on voit bien qu'entre administrations, vous avez certes le casier judiciaire, ça c'est les condamnations, mais en vérité, vous avez plein de choses avant la condamnation où des gens sont mis en cause et que, par exemple, vous êtes membre de l'Éducation nationale, bah, vous le savez pas. Vous avez pas accès à ça. Ensuite, vous avez les fichiers police. Mais les fichiers police, par définition, c'est le TAJ, etc. C'est des fichiers qui sont à destination de la police. Et donc, là, pour le coup, c'est aussi protecteur pour vous, pour moi, que n'importe quelle administration sache pas si vous avez été mis en cause dans une affaire ou pas. Et ensuite, vous avez une autre question qui est, en gros, est-ce que on crée un fichier national sur les mises en cause dans ce type d'affaires? Une question qui peut se poser. Mais là, vous voyez bien aussi, c'est juste pour vous dire, c'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc. C'est évidemment que pour protéger nos enfants, on est prêt à réfléchir tous collectivement à ça. Mais après aussi, à l'inverse, est-ce qu'on est prêt à envisager une société du fichage généralisé? Je suis pas sûr qu'on veuille tendre vers ça. Donc, tout ça, c'est des allocations de valeur aussi pour protéger nos libertés. C'est pas juste dire, en fait, il y a qu'à Faucon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que s'il y avait, il y a qu'à Faucon, d'accord, on l'aurait fait depuis longtemps, puisque une fois de plus, personne collectivement et individuellement n'a intérêt à ce qu'il y ait des jeunes filles, des enfants qui se fassent agresser sexuellement, violer.
Voilà, la médiatisation va peut-être faire avancer les choses. Mais, et le drame et l'indignation générale, puisqu'on a le porte-parole du ministère de la Justice, on va en profiter. Je lis le bilan, alors c'est le bilan donné par le Figaro, vous allez me dire si c'est le bon. Il y a eu 572 gardes à vue après les rixes entre supporters avec les casseurs, les policiers, après le match PSG-Arsenal. Seulement 3 individus ont écopé de peines de prison ferme. C'est ça la fermeté de la justice à la française? Alors,
vous avez plusieurs sujets sur le maintien de l'ordre. Là, on s'éloigne d'un sujet honnêtement beaucoup plus dramatique, même si c'est un sujet qui intéresse
aussi sur l'autorité,
bien sûr, nos concitoyens. En gros, le maintien de l'ordre, vous avez plusieurs choses. Un, vous êtes sur un mouvement qui, par définition, est un mouvement collectif. C'est-à-dire que vous avez des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes et que, à l'inverse, la responsabilité pénale est une responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'il suffit pas pour vous condamner de dire vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Monsieur, il faut pouvoir prouver que c'est vous qui avez fait quelque chose qui est répréhensible. Donc ça, c'est quelque chose d'assez insoluble. C'est-à-dire que dans plusieurs
donc
dizaines
on pas forcément les bons.
Bah oui, mais bon, quand ils sont cagoulés, qu'ils sont habillés en noir et qu'ils sont casquettes, vous faites quoi?
Présence, participation à un mouvement tel, faut de nouvelles bases légales, je vous l'accorde.
Comme ça existe d'ailleurs pour les réunions dans les halls.
On est d'accord, mais je vous dis pas qu'on est impuissant, je vous dis juste qu'il y a quelque chose d'assez insoluble.
On pas forcément les bons.
Ensuite, vous avez le sujet de vous avez une professionnalisation. Alors sans dire qu'on attrape ceux qui courent moins vite, mais vous avez une professionnalisation d'un certain nombre de casseurs qui eux ont des process justement pour ne pas se faire attraper, qu'on essaye de déjouer, hein, mais que donc, effectivement, il y a quelque part où ceux qu'on attrape, c'est pas forcément les plus malins du lot, et donc forcément les plus dangereux, et donc forcément ceux qui seront condamnés le plus durement. Et ensuite, vous avez un troisième vecteur, qui est que, vous savez, vous avez la réponse immédiate, les comparutions immédiates, c'est très important parce que vous avez des dossiers simples et graves qu'on peut juger immédiatement, mais vous avez aussi des dossiers graves qui nécessitent des actes d'investigation qui sont plus longs. Et donc, parfois, les gens sont retrouvés, jugés, certes, mais plusieurs semaines, plusieurs mois après, et on a un bilan, par exemple, à équivalence, sur le PSG l'année dernière, puisque malheureusement, il s'était passé la même chose, et on voit bien que, y compris encore 4, 5, 6 mois après, vous avez des gens qui ont été, condamnés.
L'année prochaine.
Bah après, vous avez un sujet qui concerne moins l'institution judiciaire que les forces de l'ordre, c'est le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que nous, on peut condamner les gens. Mais après, vous avez aussi, et ça, pour le coup, c'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur, comment est-ce qu'on maintient l'ordre dans Paris face à des mouvements collectifs? Ça, pour le coup, c'est leur problématique.
Le président de la République vient de dire qu'il y a dysfonctionnement dans l'affaire Liana. Il demande à ce que les enquêtes administratives aille le plus rapidement possible.
Ça peut prendre combien de temps, une enquête administrative?
Bah, la volonté, le président de la République vient de le rappeler, c'est que ça aille très vite, que ça se compte en semaines.
Très vite, ça veut dire en quelques semaines.
Que ça se compte en semaines. Après, là, la réalité, c'est que
comme
vous avez
quand même.
Vous avez trois inspections qui sont saisies en commun. Donc, pour que cette inspection soit utile aussi, nécessairement, il faut la laisser travailler. Maintenant, ça va se compter en semaines plus qu'en mois.
Merci d'avoir été avec nous, Sacha Stropkan, porte-parole ministère de la Justice. Merci d'avoir répondu aux questions des GG.